Full Santé Mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais.
Et bienvenue dans cette nouvelle émission de Full Santé Mentale, l'émission qui chaque mois détricote les idées reçues et démonte les tabous sur la santé mentale. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble de médiation animale.
Full Santé Mentale sur RCN.
Et pour m'accompagner, je suis très heureux d'accueillir Ambre, Ambre du CREPSI.
Bonjour,
bonjour Ambre. C'est une première pour toi Ambre.
Ouais, exactement.
Tu prends la place de Roman, même s'il est pas loin dans ce studio, ouais. Qu'il te regarde et qu'il t'écoute.
Exact.
Et on est très heureux de t'accueillir. On rappelle, le CREPSI, c'est donc
Centre de ressources handicapées psychiques.
Très bien. Pour nous accompagner également pour l'association Bipolaire, si tu savais, Jackie. Bonjour Jackie.
Bonjour.
Un plaisir de vous retrouver.
Avec plaisir partagé.
Toujours très heureux. Bipolaire, si tu savais, un petit mot sur cette association.
Une association qui a maintenant plusieurs années d'existence.
Ouais, c'est bien, c'est pas la peine d'être plus précis.
Dont le but principal est presque exclusif, c'est l'information sur les troubles bipolaires au grand public.
Et ben c'est très bien, on est heureux de vous avoir chaque mois avec nous dans cette émission. Alors je vous le disais, aujourd'hui on va parler de médiation animale et pour ce faire, nous sommes accompagnés de Claire, Claire du lien animaux-passions, ce qu'on appelle aussi le LAP. Bonjour Claire.
Bonjour Thomas.
Vous êtes présidente ?
Présidente de l'association.
Une association toute jeune, vous nous en parlerez ouais. Tout à l'heure un peu plus en détail. Également avec nous, Francis de Adapte ton chien. Bonjour Francis.
Bonjour.
Pareil, vous nous expliquerez dans quelques minutes hein, c'est quoi cette association, ce que vous
volontiers,
portez.
Oui.
Et on va voir que c'est hyper important quand on parle de médiation animale d'avoir des associations comme les vôtres. Et puis notre témoin, parce que vous savez qu'on aime toujours avoir quelqu'un qui témoigne dans cette émission et qui nous raconte son histoire. Et on est très heureux de vous réaccueillir, Anaëlle.
Merci, ça fait très plaisir aussi de revenir au micro.
Voilà, c'est pas la première fois que vous venez, vous êtes une super témoin, vous avez plein de choses à nous raconter. Aujourd'hui, vous allez nous expliquer notamment votre lien au chat, mais on en reparlera évidemment tout à l'heure. Alors comme vous le savez, chaque émission, nous la démarrons en écoutant ce que les gens dans la rue ont à nous raconter sur le sujet. On va donc leur poser des questions. Quelle est la première question qui leur a été posée ?
Alors la première question qui leur a été posée, c'est qu'est-ce que pour vous la médiation animale ?
Je ne sais pas ce que c'est que la médiation animale. Je pense que c'est sur le bien-être animal. Je ferai un lien avec le bien-être animal. L'effet de l'homme sur l'animal.
Médiation, moi je vois pas. Qu'est-ce qu'on peut faire Moi ça me dit rien. Hein. Ça me dit rien.
C'est quelque chose que je ne connais pas.
Je connais pas non plus. Je présume vu le thème que c'est des animaux pour aider avec la dépression. Je présume, je ne sais pas, mais c'est mon idée, mais sinon je ne connais pas, non.
Qu'est-ce que ça pourrait être une médiation animale ? C'est faire un transfert sur un animal qui permet de faire passer ses émotions, éventuellement ?
Alors la médiation animale, ça va être le fait de travailler via l'animal pour travailler beaucoup de choses psychologiques, notamment chez l'humain, par le réconfort que peut apporter un animal et le calme.
Mais pour moi aussi, c'est pour aider des personnes qui sont en difficulté psychologique d'aborder le monde, d'aborder leurs émotions et d'arriver à contrôler ces émotions par le biais de l'animal qui fait le joint.
La médiation animale, c'est une bonne question. J'imagine que c'est travailler sur les sujets de santé mentale avec les animaux, par exemple avec les équidés, je sais que ça se fait. Voilà, par exemple, c'est les seuls trucs que je sais. Et peut-être le yoga avec les chiots, mais je crois que c'est pas ouf en termes d'éthique. Donc voilà, c'est tout ce que je sais.
Oh, moi j'avoue que ça me dit rien du tout. Je connais pas du tout le concept.
Ça déstresse, mmh. Et puis ça permet de s'occuper de quelqu'un d'autre et pas tourner autour de son nombril. Peut-être que c'est ça.
Bon, il y a beaucoup de choses hein, qui sont dites dans ce micro-trottoir. On entend bon, les premières personnes qui n'ont pas l'air de bien comprendre ce qu'il en est. On entend même que pour certains, c'est rendre heureux son animal. Je pense que c'est pas ça, Ambre.
Alors non, effectivement, on entend que la plupart ne connaissent pas la médiation animale, mais qu'ils arrivent tout de même à quand même un peu imaginer ce que c'est. Mais bon, la médiation animale, c'est une méthode qui associe des animaux pour améliorer le bien-être ou accompagner les personnes fragile et donc elle est basée sur le lien bienfaisant entre les animaux et les humains et elle est déployée à des fins préventives, éducatives ou thérapeutiques. La médiation animale, elle est utilisée à 44% chez les personnes en situation de handicap psychique ou physique, selon la fondation Adrienne et Pierre Sommer. Et 96% des Français croient au bienfait de la zoothérapie, donc de la médiation animale, pour les personnes malades, handicapées ou stressées. Et ça, c'est selon l'association 30 millions d'amis. La médiation animale, elle reste encore méconnue.
Très méconnue, ouais.
Du grand public, mais son principe parle quand même à tout le monde. Et c'est bien fait, eux, ils font pas tellement débat.
Oui, oui, on entend 96% des gens qui pensent que ça a un effet positif. Donc c'est effectivement...
Ça fait beaucoup.
Voilà, même si on connaît pas très bien, qu'on maîtrise pas très bien, on comprend quand même que ça a un impact positif.
Exactement.
Peut-être une réaction sur ce qu'on a entendu déjà dans ce micro-trottoir, les uns les autres. Vous avez quelque chose à redire à ce que... au fait que les gens connaissent peu ce sujet de la médiation.
Il y a encore du travail à faire.
Ouais.
D'information.
Il faut développer l'information, il faut développer le contact, et c'est bien qu'on ait des émissions comme aujourd'hui, quoi. C'est pour pouvoir parler de tout ça, quoi. Ça, c'est une bonne chose.
Et on va le faire, on a une heure pour le faire, et on est très heureux de pouvoir en discuter aujourd'hui.
Juste un mot, l'appellation n'est pas très adroite, je trouve, médiation animale. Médier, c'est faire quelque chose entre. Il aurait fallu parler, ce serait plus explicite, de médiation homme-animal, par exemple. Ouais. Là, on comprendrait tout de suite de quoi il s'agit. Médiation animale.
D'où le fait qu'il y ait cette, à un moment donné, peut-être incompréhension de quelqu'un qui dit...
S'occuper des animaux.
Ouais, oui, rendre heureux mon animal, quoi.
C'est ça, oui.
On est d'accord.
Vous avez raison, ouais, c'est vrai.
Et là, on voit bien qu'effectivement, il y a peut-être ce mot qu'on pourrait rajouter. La deuxième question qui a été posée aux gens dans la rue, Jackie, du coup...
Alors, la deuxième question, en quoi un animal de compagnie pourrait-il être un frein à une hospitalisation?
Avoir un compagnon, ça peut aider, je présume. Enfin, peut y avoir des personnes isolées, ou même juste... Je sais pas, ils sont là, ils sont mignons, ça remonte le moral, je sais pas quoi dire de plus.
C'est important des fois d'avoir une petite bestiole de laquelle il faut s'occuper, pour être dans le moment présent et pas juste s'enfermer sur soi-même et du coup avoir quelqu'un d'autre entre guillemets.
Le fait d'avoir quelqu'un, même avoir une responsabilité aussi en plus, ça doit aider aussi un peu dans une certaine forme.
Le réconfort, la présence, la chaleur et puis l'affection qui nous donne quoi. Voilà, oui, ça peut être ça. Surtout une présence pour les gens isolés.
Souvent, l'animal, déjà, il ne juge pas les gens, donc c'est un rapport sain et honnête. Donc, il va entraîner la confiance de l'humain, et du coup, de là, l'humain va avoir plus confiance en lui et le rassurer aussi par son calme. Avec un animal, on ne ment pas aussi. C'est de l'honnêteté à 100%.
Notamment dans beaucoup de pathologies comme l'autisme, l'animal peut permettre de passer aux contacts qui sont très difficiles, notamment dans le cas des autistes, et permettre un rapport après aux humains plus facile.
J'imagine que c'est une question de sensibilité, que ça marche pas avec tout le monde, comme les hypnoses ou les psys. Ça dépend vraiment des gens. Alors pour ma part, je ne saurais pas vous dire, mais je pense que ça peut marcher avec certaines personnes, ouais.
Déstresser les gens, s'occuper pour un peu dériver par rapport à ses problèmes personnels, l'impression de faire du bien.
Je pense que les animaux, ils ont cette faculté d'aimer. Complètement sans idée, sans préjugés, ils n'ont pas la faculté de la pensée. On dit que le chien est très fidèle et très un petit peu dans ce sens-là, si vous voulez, il n'y aurait pas de... C'est pas le même rapport, l'humain à l'humain et l'humain à l'animal. On peut, ouais, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses.
Bon, il y a eu une petite inversion dans la question posée. Hein. La question qui était posée aux gens dans la rue, c'était plutôt les bienfaits que peuvent apporter les animaux, hein, c'est ça?
C'est ça.
Et du coup, Jackie...
L'animal peut-être être bénéfique. Ouais. Mais c'est moi qui ai inversé les questions.
C'est pas grave. Et du coup, on a entendu les réponses. On écoutera la troisième question juste après. Globalement, comme ça, on entend que l'animal, ça a l'air d'être quand même... C'est mignon, ça apporte de l'amour. Jackie, qu'est-ce qu'on en retient?
Oui, c'est ça. Les gens soulignent les qualités des animaux, apportent de la compagnie, de la présence, etc. C'est comparable à, enfin, réconfort, chaleur, affection. C'est beaucoup de termes centrés sur l'affectivité. Le fait qu'il n'y ait pas de jugement, un rapport sain, non jugement, pas de représentation, pas de préjugés. On a entendu, ils aiment complètement les animaux sans préjugés, rassurants, déstressants, fidèles. Donc globalement, ils peuvent créer une atmosphère bénéfique autour du sujet humain, tout compte fait. En plus, l'animal peut apporter le sentiment d'être responsable. Quand j'ai un animal de compagnie, j'en suis responsable, c'est celui dont je m'occupe, qui oblige donc à se dépasser, à ne pas s'enfermer sur soi, à avoir quelqu'un d'autre auprès de soi, pour quelqu'un qui pourrait être isolé. Ça peut donner aussi l'impression de faire du bien, tout compte fait, avoir un animal dont on s'occupe. Mais il y a aussi des gens, c'est un petit bémol, pour qui ça n'apporte pas grand-chose. Ouais. Ou des cas particuliers, comme l'autisme, qui pourrait avoir un rapport aux autres un peu spécifiques et ne pas saisir toujours les bienfaits de l'animal. Donc beaucoup d'effets positifs, en fait, effectivement.
Mais je relevais ce que vous disiez, Jackie, sur le fait qu'il y a quelqu'un qui dit quand même que ça ne marche pas forcément toujours, c'est un peu comme le psy ou l'hypnose.
C'est ça, oui.
Une réaction là-dessus, peut-être?
C'est sûr que
c'est une question de sensibilité.
Ouais, ouais. L'animal peut apporter plein de choses. Après, la personne qui réceptionne, comment elle réceptionne les relations qu'on a avec l'animal. Et puis, qu'est-ce qu'on attend de l'animal? Est-ce qu'on attend quelque chose de précis? Ou est-ce qu'on le laisse vivre autour de nous? Et puis, on voit ce qui se passe. Après, quand on est sur des personnes en situation de handicap, si je prends des personnes en fauteuil, par exemple, l'intérêt d'avoir un chien d'assistance, c'est aussi de la médiation animale. Mais on a un chien d'assistance aussi pour des raisons techniques. On a besoin qu'il ramasse les objets au sol, on a besoin qu'il allume des lampes, qu'il ouvre des portes, qu'il les referme, qu'il aille chercher un objet pour nous, etc. Quoi. On apprend aux chiens d'assistance, on leur apprend à faire des transactions en magasin. C'est eux qui vont apporter la carte bleue. Puis si la personne à la caisse, bon, elle prend la carte bleue, elle fait la transaction, etc. Ah oui. Ça peut être des choses comme ça. Quoi. C'est,
Bon, puis là, on sait que ça marche. Quoi. C'est pas de l'abstrait. Quoi,
voilà, c'est pas de l'abstrait. Et le chien, il est là pour... alors, certaines personnes vont dire qu'il est là au travail. Mais oui, il est là pour accompagner la personne en situation de handicap. On parlait d'autisme. Quand on met un chien avec une personne autiste, soit un enfant ou un adulte, hein, suivant l'autisme, parce que là aussi, il y a des tas d'autismes différents, suivant l'autisme, le chien va apporter quelque chose de différent à chacun. Il y a des personnes, effectivement, qui vont se sentir très responsables, mais qui vont prendre leur chien en charge, et puis qui vont l'accompagner, enfin, qui vont être accompagnés par le chien, mais qui vont aussi être accompagnateurs du chien. Et puis, il y en a d'autres qui vont... bon, je prends le cas d'exemple, avec des enfants, par exemple, des enfants qui auraient un autisme un peu violent, un peu dur, ça va être des moments de calme. Vous apprenez au chien à se coucher par terre et à l'enfant à se coucher dessus. Et puis l'enfant va se calmer parce que les rythmes du cœur, les rythmes cardiaques du chien sont plus faibles que les nôtres. Donc il va se mettre au rythme du chien. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'on veut apporter par la médiation animale, quoi? Parce que quand on parle
c'est un très vaste sujet. Ouais. Là, on vient à peine de démarrer cette émission, mais on ressent bien que ça va de très très loin. Enfin, ça peut aller très loin. C'est très large comme sujet de la médiation animale. On va continuer d'en discuter après. Je vous propose qu'on écoute la réponse cette fois-ci à cette dernière question, qui était du coup le frein. Hein, c'est ça, Jackie?
Oui, c'est ça. Donc, en quoi un animal de compagnie pourrait-il être un frein à une hospitalisation?
Un frein à une hospitalisation, ce serait pour le côté hygiène, parce que forcément, les animaux ne sont pas 100% hygiène, mais après, à part tout ce qui est chirurgical, pour moi, il ne devrait pas y avoir de frein.
J'ai connu les EHPAD sans animaux et les EHPAD avec. Et il y a eu un rapport entre les résidents qui était merveilleux une fois les animaux introduits dans les EHPAD. Donc certes, dans certains services hospitaliers... vu l'hygiène qui est pas top pour les animaux, c'est certes un frein, mais c'est un énorme réconfort pour les patients.
Mais aussi c'est un frein à l'hospitalisation, peut-être dans le sens où si jamais les animaux sont pas autorisés à l'hôpital, ou du coup on peut pas avoir son chien avec soi et que bah du coup il faut que quelqu'un d'autre s'en occupe, il faut être à distance de son compagnon pendant longtemps.
Je pense que là il faudrait légiférer. Je sais que j'ai ma maman en EHPAD. Les résidents n'ont pas droit d'avoir leur chien, leur chat. Mais il y a des personnes extérieures qui viennent avec un chien dressé ou un cheval. Et je sais que ça apporte énormément. Le problème, c'est après l'hygiène, comment gérer au niveau du personnel de l'EHPAD. Parce qu'on peut avoir des belles idées, mais après, il y a les gens sur le terrain. Hein, c'est ça le problème. Hein. Et puis je pense qu'il faut des moyens. Donc on va avoir des soucis hein, pour trouver de l'argent.
Parce que il y a toujours le problème de le faire garder, qui va s'en occuper. Même quand on part en vacances, on ne sait pas comment faire déjà. Donc une hospitalisation, c'est encore plus compliqué, je pense, pour savoir trouver une personne qui s'en occupe, une personne qui prend soin d'elle, quoi. Voilà, c'est surtout ça, avoir un réseau de personnes qui pourraient garder les animaux quand on n'est pas disponible.
Il y a aussi des maisons de retraite qui acceptent les animaux. Hein.
Il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup, parce qu'on c'est reconnu qu'un animal, c'est vrai que ça aide à vivre. Hein. Quand on a des problèmes, ça aide à vivre.
Eh ben, il faut s'en occuper, cet animal de compagnie, quand on est hospitalisé. Et du coup, il faut s'organiser pour qu'il soit gardé, et ça dépend surtout de l'animal en question. Si c'est un lapin, c'est pas la même organisation que si c'est un bulldog, par exemple. En termes d'échelle, ça se tape pas tout à fait au même niveau, quoi. Donc c'est une autre organisation, et il faut avoir des gens disponibles pour s'occuper de l'animal.
Bon, on entend hein, ce besoin de disponibilité et d'avoir un réseau de personnes qui peuvent garder les animaux, Jackie.
Oui, donc là, on entend aussi tous les aspects positifs, ouais. Chacun le dit encore
à chaque fois,
pour cette question-là de l'animal. Donc deux freins principalement, d'abord l'hygiène, donc les animaux ne seraient pas accessibles, il y a des règlements intérieurs d'ailleurs, qui interdisent dans certains établissements. Certains EHPAD acceptent, mais bon, a priori, ça paraît être un problème spécifique. Le deuxième problème, c'est un problème d'organisation matérielle. Qu'est-ce que je suis hospitalisé, j'ai un animal de compagnie, qu'est-ce que j'en fais si personne ne peut le garder? Ça peut freiner, même peut-être m'empêcher de partir en hospitalisation. Donc, quelqu'un faisait le rapport avec un départ en vacances. Qu'est-ce que je fais de mon animal
qui part
en vacances? Faut s'organiser, faut trouver. Et si j'ai personne autour de moi qui peut le garder, ça peut être très, très problématique. Donc, et aller jusqu'à se priver d'une hospitalisation. Voilà en gros ce qui a été dit. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce qui n'est pas abordé là, c'est la question du lien de l'attachement.
Oui.
Alors, que ça va générer.
Je m'étonnais
c'est insupportable pour moi que de pas vivre avec mon animal, donc je n'irai pas me faire hospitaliser. Donc, c'est plus de l'organisation, c'est un attachement affectif.
Ouais. C'est vrai que c'est pas évoqué, alors que pourtant on entend les gens qui disent que c'est hyper important l'animal, mais effectivement on n'a pas entendu ça. Claire, je me tourne vers vous, parce que c'est un peu le métier de votre association. On va en dire vraiment un mot très rapide, puis après on en reparlera plus longuement, mais c'est vrai, Jackie a raison de dire qu'on n'a pas entendu eu cette notion là.
Après voilà, c'était peut-être que le micro-trottoir n'est pas tombé sur les personnes qui ont...
Oui, mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui répondent. C'est vrai que moi je suis étonné de ça, effectivement, alors que pourtant vous êtes confronté dans la réalité.
Oui, dans la réalité, oui, c'est pour ça que l'association a été créée. Donc moi j'ai la chance de travailler sur l'hôpital psychiatrique où on m'a écoutée et où on m'a laissé un petit peu monter mon association, justement pour venir en aide aux patients hospitalisés qui étaient susceptibles de refuser une hospitalisation. Donc en psychiatrie, on estime à 60% le nombre de personnes qui seraient susceptibles de repousser ou de refuser une hospitalisation de par la présence d'un animal de compagnie, qui est le compagnon de tous les jours, le soutien de tous les jours, qui devient un frein quand il y a une hospitalisation.
Mais on en reparlera après, mais effectivement...
Mais dans la population globale, on va dire, dans la population insérée, qui n'a pas de soucis, il y a une enquête qui avait été faite par une doctorante qui avait mis ces questionnaires chez les vétérinaires et dans les animaleries. Donc vraiment, des gens très bien intégrés dans la population. Et il y avait 30% des personnes qui avaient répondu à ce questionnaire qui répondaient pouvoir penser à refuser ou à repousser une hospitalisation. On ne parlait pas de psychiatrie, une hospitalisation en général.
On verra et on reparlera de l'association dans quelques instants, justement, et de l'intérêt de ce que vous avez mis en place. Je vous propose qu'avant d'aborder plus longuement la thématique de la médiation animale, peut-être que vous pourrez nous le définir chacun de votre point de vue dans quelques instants. On va écouter un premier titre, je crois, on va partir sur le son Le Chat de Téléphone. Je crois que c'est vous, Claire, justement, qui l'avez choisi. Pourquoi chanson? Pourquoi ce titre?
J'aime beaucoup le rythme de cette chanson qui est, je trouve, apaisant, et les paroles sont tellement parlantes que...
Qu'on va l'écouter maintenant.
Voilà.
Et justement, allons-y. Le Chat Téléphone, c'est maintenant sur RCN dans Full Santé Mentale.
À pas de velours, il vole l'amour. C'est un chat. Il aime les lumières
de la nuit.
Il avance en dansant souplement, doucement. Il va où il veut, s'en va
comme il peut. À minuit, il pursuit ce qui lui est à lui.
Oh, il est sale, le matou.
Je suis
à ça y est, il est reparti.
Jusqu'à 11h, Full Santé Mentale sur RCN.
Avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais.
Et aujourd'hui, on parle du sujet de la médiation animale, qu'on pourrait redéfinir peut-être médiation entre humain et animal, effectivement. C'était une proposition de Jackie de Bipolaire, si tu savais, de l'association. Je me tourne maintenant vers nos deux, j'allais dire, experts, si vous le permettez. En tout cas, vous êtes tous les deux dans des associations qui utilisaient, entre guillemets, qui mettaient en relation l'animal avec le patient ou qui aidaient aussi les patients à pouvoir, j'allais dire, avoir un moment où ils peuvent être hospitalisés sans leur animal, mais tout en gardant un lien avec. Je vais peut-être commencer par vous, Francis. Cette question, et je poserai la même à Claire dans un instant, pour vous, c'est quoi la médiation animale, si vous deviez la définir ?
En fait, je pense que l'idée, elle est générale, c'est mettre en relation des individus avec des animaux, quels que soient les animaux, et puis essayer de créer un lien pour favoriser soit une utilisation technique, hein, pour des personnes en situation de handicap, ça peut être ramasser des objets, ouvrir des portes, des choses comme ça. Sur des personnes atteintes psychiquement, ça peut être, je dirais, des moments câlins, quoi, c'est où on prend le chien dans les bras, où ça apaise, parce que on a un stress, on est apaisé grâce à ça. Et puis après, au niveau de la médiation animale, c'est très très vaste, quoi, c'est un sujet hyper vaste, mais il faut que ce soit fait de façon intelligente, dans le respect de l'animal, dans le respect des gens, dans le respect des structures où on va travailler avec les animaux, etc., quoi. Et on fait pas la même chose avec un lapin, avec un chien, avec un chat, parce que l'attitude de l'animal et le caractère de l'animal, c'est pas du tout la même chose. On va pas gérer un chat comme on gère un chien, et pourtant on peut faire des choses fantastiques avec l'un comme avec l'autre, quoi.
Et puis de la même manière, on fait pas la même chose dans un centre hospitalier où il y a peut-être, voilà. On entendait parler d'hygiène tout à l'heure dans le micro-trottoir, il y a des choses qu'on peut pas amener, ou à l'inverse, c'était des endroits où on peut amener d'autres animaux. Enfin, je sais pas, on parle de chevaux aussi, par exemple, ça s'est déjà vu dans des hôpitaux, ça aussi.
Oui, il y a un cheval dans le sud de la France qui s'appelle Peyo, qui se promène dans les hôpitaux. C'est très, très bien. Moi, je trouve. Après, ça a demandé à son éducateur de le former pour qu'il fasse ses besoins à l'extérieur et non pas dedans. Ça demande d'entretenir bien le cheval avant et tout. Ouais. Mais alors, on parle d'hygiène. Moi, je me rappelle une fois dans un précédent, à l'époque où je travaillais encore, une relation où je viens dans une structure hospitalière avec un chien, et on me dit non, il rentre pas parce qu'il est très sale, il a mis ses pieds partout. Quand vous regardez les pattes d'un chien, quand vous regardez un de mes pieds, c'est les quatre pattes du chien, ça fait la taille de mon pied, quoi. Donc moi, je viens avec deux pieds, donc je salis deux fois je salis comme deux chiens, quoi.
Et oui, c'est ça, puis on n'amène pas moins de choses, voilà, mais plus, effectivement, voilà, de l'extérieur.
On a marché au même endroit tous les deux, l'un à côté de l'autre, tranquillement et tout, donc l'hygiène, je comprends qu'on n'emmène pas dans une salle de soins.
Oui, quand on parlait de salle chirurgicale, par exemple, aussi.
C'est sûr que sur une table d'opération, vaut mieux pas que le chien soit là. Mais on voit dans des EHPAD, il y a des infirmières, elles font des piqûres, elles font des vaccins de la grippe. Hein. Vous pouvez le faire avec le chien à côté de la personne. Ouais. C'est pas gênant du tout. Ça va concentrer, la personne va se concentrer sur le chien. Il n'y a rien de mieux comme médiation animale. Se concentre sur le chien, on fait la piqûre est finie, personne n'a eu mal.
Ah oui.
Donc voilà, c'est
génial. On se retourne, on dit, vous la faites quand la piqûre, quoi. Voilà. C'est déjà fait.
Vous avez des dentistes aujourd'hui qui travaillent avec des chiens en structure, vous avez des kinés. Donc ça veut dire que le chien est là, je vais dire l'animal, je ne vais pas préciser que le chien, parce que je pense qu'on peut faire avec d'autres animaux aussi, mais l'animal est là pour apporter de l'apaisement. Et en apportant de l'apaisement, les soins se passent mieux, tout le monde va mieux, tout le monde est apaisé et tout. Mais des anecdotes, il y en a plein.
Je vais me tourner vers vous, Claire, pareil, même question, la définition pour vous de la médiation animale.
C'est l'animal en tant que lien. En tant que lien, en hospitalisation, en tant que lien entre les soignants et le patient, en tant que lien toujours, comme on en a parlé, hein, toujours en,
en mettant en avant le bien-être de l'animal, ne pas le surexposer non plus, parce qu'un animal, c'est aussi une éponge.
Oui.
Donc, il faut avoir des temps de travail, des temps de repos, et puis aussi faire attention, parce qu'il y en a beaucoup maintenant qui se disent médiateurs et qui s'improvisent médiateurs. Donc là, il faut aussi là-dessus faire très attention. Il y a des formations qu'il faut faire, justement, pour pas que l'animal soit surexposé. Mais le lien, il faut que c'est vraiment le lien entre les gens. C'est le lien entre les soignants et le patient. C'est un lien, quoi. Pour moi, c'est vraiment l'animal.
Justement, ce lien. Si j'essaie de comprendre concrètement, quel lien il peut créer justement entre le patient et le professionnel de santé. Je pense notamment, vous intervenez au CEPEN, Centre psychothérapique de Nancy. Mmh. Qu'est-ce qui peut faciliter comme lien l'animal à ce moment-là?
C'est plus, en fait, quand il y a une interaction entre un patient et un soignant, c'est un duo. Et quand il y a l'animal qui est là, c'est plus du tout la même chose, parce que il est là en tant que témoin sans... Enfin, qui ne parle pas, mais qui détourne un petit peu, qui détourne. Et puis, ça peut être aussi un sujet de discussion entre le patient et le soignant. On parle à l'animal plutôt que de parler directement au soignant. C'est beaucoup plus facile de passer par ce biais-là que d'avoir cette relation duelle.
Oui,
il y a vraiment,
il y a
l'animal qui entre les deux, qui apaise, on sait, de toute façon, c'est reconnu, quoi.
Ce que disait Francis tout à l'heure, il parlait, moi je découvrais, je rappelle à Francis que vous êtes de l'association Adapte ton chien, il nous disait un chien a un battement de cœur plus lent, et du coup ça permet de favoriser aussi l'apaisement des personnes.
Oui, ça permet l'apaisement des personnes, mais comme je le redis, il faut vraiment que toutes les personnes soient formées. Et tout le monde ne s'improvise pas médiateur à venir j'ai mon chien, il est gentil, ou j'ai mon chat, il est sympa, et puis non, c'est pas du tout ça, parce qu'il faut vraiment que le chien soit formé et que le maître soit formé. C'est vraiment là-dessus il faut faire très attention, parce que n'importe qui maintenant, mon chien il est sympa, je peux être... non, ça s'apprend.
Mais justement, je vais me tourner vers vous, Francis, parce que chez Adapte ton chien, ça fait partie des choses que vous faites. C'est former l'animal, mais aussi former les personnes qui vont travailler avec l'animal.
Ouais, il faut former les deux en même temps. On peut pas prendre un chiot de 8 semaines et puis le mettre au milieu d'un groupe et puis dire, allez, il va se passer ce qui va se passer, quoi. Parce que soit le chiot va bien vivre le truc, et puis ça, c'est génial. Soit le chiot va mal vivre le truc, et on est dans la souffrance animale. On rentre dans la souffrance animale. Donc ça, c'est important. Mais il faut que tout le monde sache comment faire, quelle est l'attitude du chien quand il a la tête comme ça, quand il a la queue comme ça, quand il redresse les babines, est-ce qu'il sourit, est-ce qu'il est prêt à mordre, etc.
C'est extrêmement compliqué, pardon, parce que je vous entends, moi, je suis propriétaire d'animal aussi, d'un chien, il y a ce qu'on appelle tous les signaux d'apaisement, il y en a tellement, et c'est très variable d'un animal à un autre en plus.
Oui, tout à fait, c'est variable d'un animal à un autre, d'une race à une autre, il y a des races de chiens qui sont plus compliquées à éduquer sur certains métiers, on peut pas faire de tout avec n'importe quoi, donc faut faire très très attention à ça. C'est important parce que c'est le respect de l'animal et c'est protéger aussi le métier et c'est protéger aussi les gens qui en face. Parce que si vous mettez un chien qui peut être dangereux avec des enfants,
fatalement, on aura un effet.
Vous faites aucune belle image au niveau de. C'est ce qu'on disait quand je travaillais au niveau du handicap avec les personnes en fauteuil. Si le chien il tire et puis qu'il emmène le fauteuil et puis que le fauteuil il vole, la personne en fauteuil, qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Elle se retrouve par terre et tout. Donc il faut bien apprendre au chien à pas tirer, à vivre des conditions. Chez les chiens guides d'aveugles, c'est pareil. On va apprendre au chien à vivre une certaine. Il faut vivre la ville. Quand on est aveugle, on voit pas, on appréhende pas les choses, et du coup, c'est le chien qui aide. Vous avez les chiens du silence pour les personnes sourdes et malentendantes. Là aussi, le chien, il faut qu'il appréhende les bruits et qu'il sache les retransmettre à la personne avec qui il est. Donc tout ça, c'est un travail. Les chiens détecteurs de crise d'épilepsie, les chiens détecteurs du diabète, il faut bien qu'ils soient en lien et il faut qu'ils soient formés. On va pas prendre un chien comme ça. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais moi, mon chien, ça fait 6 ans que je vis avec. Chaque fois que je fais une crise d'épilepsie, il me prévient. Oui, c'est parce qu'il y a un moment donné, il y a une telle affinité qui s'est mise en place, on arrive à lire son chien et le chien arrive à lire la personne. Donc, Effectivement, au bout d'un certain temps, mais ça veut dire que le chien, il n'a pas fait ça quand il est arrivé à 6 mois, quoi. C'est important.
Donc là, vous nous parlez effectivement notamment de l'éducation du chien, mais Claire nous dit aussi qu'il faut former les adultes, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas s'improviser médiateur. Elle a raison, je pense.
Oui, tout à fait. Il faut vraiment que les gens qui font de la médiation animale, de toute façon, il y en a quelques-uns, hein, aujourd'hui, des gens qui sont formés à la médiation animale, il y a des organismes, hein, qui forment, il y a des personnes qui sont formés à la médiation animale, qui apprennent à gérer l'animal et qui apprennent surtout à faire des activités. Parce que si c'est arrivé dans une maison de retraite avec 3 lapins et puis 2 poules et puis dire tenez, prenez-les et puis ils passent du temps à caresser, c'est pas de la médiation animale, on le fait tous. Hein. Moi, oui, j'ai des lapins à la maison, je peux venir avec des lapins n'importe où et puis voilà, ça se passe. Hein. Mais il faut faire des choses avec pourquoi on prend un lapin, pourquoi on prend une poule, pourquoi on prend un chinchilla. Faut expliquer aux gens, faut expliquer ce que c'est. On peut faire des animations comme ça avec des enfants, moi j'en ai fait, et on explique pourquoi on fait ça, pourquoi un chien on le caresse de telle façon, pourquoi on approche un chien de telle façon, faire une formation au risque de morsure par exemple. Ça, c'est très important aujourd'hui.
Et ça participe, ça, de la médiation animale ?
Oui, parce que c'est important de faire comprendre à la personne, vous parliez des signaux d'apaisement, comprendre son animal, c'est regarder comment il réagit, comment il met les oreilles, comment il tire la langue, toutes les positions qu'il peut avoir, quand on dit qu'il a le housse-dos, vous savez, les poils qui se hérissent sur la colonne vertébrale, qu'est-ce que ça veut dire ?
Je vous pose la question.
Ça veut dire qu'il est en colère, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il est en train de vous avertir. Là, il est prêt à bondir. Mais est-ce qu'il bondit sur vous ? Est-ce qu'il bondit sur l'autre personne à côté ? Est-ce qu'il y a un autre animal qui le met en tension ou pas ? On dit toujours qu'il ne faut pas que 2 chiens en laisse se rencontrent.
Oui.
Et il faut encore moins qu'un chien en laisse rencontre un chien pas en laisse. Oui, parce qu'on crée des situations de déséquilibre. Le chien qui est en laisse, il est attaché et puis il se dit si l'autre il vient, je peux pas me défendre. Et puis l'autre il dit ouais, moi je suis content, je vais jouer avec lui. Et puis ça se passe pas bien, quoi.
Il y a l'attention du maître derrière la laisse aussi, que le chien ressent.
Si je reprends cette notion de médiation animale, c'est-à-dire que c'est pas forcément que dans un cadre, on parle hospitalier par exemple, mais c'est aussi la médiation animale à domicile, alors, finalement, quand je vous écoute.
Oui, c'est très, très vaste. La médiation, c'est vraiment... Et comme disait tout à l'heure, tous les animaux ne sont pas... Tous les chiens, par exemple, ne peuvent pas être chiens guides d'aveugle. Par exemple, un chien peut être très, très adapté, mais tiré toujours en laisse et on n'arrivera jamais... Mais alors, je le sais parce que nous, au CPN, on a récupéré un chien justement qui tirait trop. D'accord. Donc il est chien médiateur dans un service, mais il ne peut pas être donné à une personne qui non voyante parce qu'il tire sur la laisse simplement. Donc
et donc il met forcément en danger. Donc voilà,
c'est pour ça que un chiot ne va pas forcément être, il faut vraiment déjà bien connaître le chien, voir ce qu'il est capable de faire. On va pas mettre n'importe quel un chien qui est très très exubérant, si on veut qu'il soit avec des enfants qui ont besoin de calme. Voilà, il faut vraiment choisir l'animal qui va avec le bon type de patient, toujours en préservant l'animal.
Ah oui, ça c'est important, je vous l'entends beaucoup le dire, préserver l'animal. Et d'ailleurs, on entendait tout à l'heure quelqu'un qui évoquait le yoga des chiots, c'est ça, en disant, mais c'est pas très éthique. Peut-être en dire un mot là-dessus aussi, je sais pas, Claire ou Francis, Claire Dulap, Francis de Adapte ton chien.
C'est comme le salon du chiot, quoi. Ça, c'est des choses qu'il faut absolument bannir. Parce que c'est pas... Après, on se retrouve avec des chiots qui viennent de je sais pas où et qui se retrouvent à la SPA ou à la fourrière parce qu'on a pris un petit chiot qui était tout mignon. Et puis, au bout de 6 mois, on s'aperçoit qu'il fait 1 mètre de haut, qu'il n'est pas forcément adapté, qu'il a tendance à mordre et tout ça.
L'occasion de rappeler aux gens qu'avoir un animal, c'est super, mais il faut y réfléchir bien avant parce que c'est beaucoup moins super.
C'est une responsabilité.
C'est une vraie responsabilité et c'est assez scandaleux d'aller ramener son animal après ou de le laisser attaché dans la nature.
Et c'est jamais un cadeau.
Et c'est jamais un cadeau, tout à fait. Non, surtout jamais, effectivement. Jamais c'est quelque chose qu'on réfléchit et qu'on travaille. Et qu'on, voilà. Non, mais c'est extrêmement important. On entend là le bien-être de l'animal. Est-ce qu'un animal qui est heureux est un animal qui va aider un patient encore mieux ? Je ne sais pas si ma question est...
Bien sûr.
Oui, on peut faire ce pari-là. Oui. C'est un animal détendu qui a l'occasion d'aller courir dans les champs, qui peut jouer avec des congénères, et puis qui à la maison est bien nourri, et puis qui a du temps de repos aussi, parce que ça on oublie, le chien ça dort 14-15 heures par jour, donc il faut que ça se repose un chien. Ça vit beaucoup plus vite que nous, donc il faut que ça se repose aussi. Donc ça c'est important. Et puis quand on respecte l'animal, lui il va nous respecter, et quand il va nous respecter, il va être beaucoup plus efficace au travail, à la relation. Enfin, bon, je parle beaucoup de travail parce que j'accompagne les chiens pour accompagner les personnes en situation de handicap. Mais si on veut que le chien il ait une bonne relation, un bon travail avec les gens, il faut qu'il soit heureux de vivre. S'il vit tout le temps enfermé, s'il sort pas, s'il rencontre pas de congénères, qu'est-ce qu'il vit ? Rien, quoi. Alors c'est sûr qu'il peut vivre un super canapé. Hein. Moi j'ai vu des chiens, ils avaient des super maisons, super canapés, des coussins partout, coussins à mémoire de forme, etc. C'était pas des chiens heureux parce qu'ils couraient pas, quoi. Un chien, ça a besoin de se défouler. Un chien, ça a besoin de courir, de jouer.
De sentir aussi, je crois.
Oui. Un chien dans la rue, vous promenez un chien dans la ville de Nancy, il a la truffe en permanence par terre parce qu'il y a plein de marqueurs pour lui. C'est comme ça qu'il découvre. Ouais. Un chien vit par les odeurs. Son premier sens, c'est l'olfaction. Donc, il vit par les odeurs. Tout ce qu'il y a dans la rue, que ce soit les urines de ses congénères ou de quelqu'un d'autre, ou que ce soit l'odeur de frites, de hamburger ou je sais pas quoi, tout ça, ça lui fait des repères, lui fait une identification de là où il est et de ce qu'il vit. Et ça, il en a besoin, quoi.
Alors, on parle beaucoup des effets bénéfiques de l'animal sur le patient. On en reparlera tout à l'heure avec Anaëlle, mais un animal, ça vit pas éternellement. Et du coup, est-ce que ça peut pas être aussi, à un moment donné, une source, pas, je sais pas si je dois dire de risque, mais en tout cas de difficulté pour une personne, je pense, qui souffre d'un trouble psychique, ou même une personne en situation de handicap, qui a créé ce lien avec son animal et qui le voit partir avant lui.
Si, il y a beaucoup il y a des appels, justement. Même au 31-14, hein, de personnes qui ont des idées suicidaires de par la perte de leur animal de compagnie, surtout quand on parle de santé mentale et de personnes ayant un trouble. C'est leur seul. Ils sont souvent isolés socialement, donc ils ont reporté leur attention sur leur compagnon à qui ils ont pu se confier pendant. Et là, tout d'un coup, c'est le vide. La perte de l'animal, c'est le vide. Ça allait déjà pour des gens qui n'ont pas de soucis, de problèmes de santé mentale. Quand on perd un animal, c'est un deuil. Et le deuil animalier, il est souvent oublié. En fait, on dit, c'était qu'un chat. C'était qu'un chat, mais c'était mon compagnon depuis 15 ans. Et moi, j'y étais attachée. Et c'était mon confident. Donc, le deuil animalier n'est pas pris en compte, mais on ne peut pas non plus, parce qu'on a peur de perdre... qu'on sait, de toute façon, pertinemment, que quand on prend un animal, il vivra normalement moins longtemps que nous. Et c'est se priver de beaucoup de belles choses aussi. Et puis on sait que là, ça va... souvent, des patients qui sont en situation d'exclusion, ça leur apporte beaucoup et ça permet quelquefois qu'ils ne passent pas à l'acte parce qu'il y a l'animal qui est là et qui a besoin d'eux, donc ils comptent sur eux pour avoir discuté avec des patients. J'ai des idées noires, mais j'ai mon animal et ça m'est déjà arrivé de dire on repousse un petit peu, l'hospice, on attend un peu, mais si ça va pas, bien sûr. Mais vous avez votre chien, et c'est vrai que ça les aide vraiment. Et on ne peut pas dire, parce qu'on sait qu'ils vont vivre moins longtemps que nous,
qu'il ne faut pas, au contraire.
On le sait, de toute façon,
alors,
c'est obligatoire.
Du coup, est-ce que ce n'est pas quelque chose aussi à anticiper, quand en tout cas on commence à travailler avec... Je pense que c'est quelque chose qui se travaille aussi avec les patients. Ouais. C'est de dire, l'animal, ça va vous apporter un bénéfice, mais attention, il faudra aussi vous dire qu'il y aura une transition à un moment donné, peut-être.
Mais on ne peut pas créer cette angoisse non plus.
Mais il ne faut pas la créer.
Créer de l'angoisse, parce que sinon, s'ils vivent en permanence avec... l'épée de Damoclès au-dessus de la tête en disant « J'ai mon chien, tout va bien, mais attention, il peut mourir demain. Y a aucun... Ça va rien leur apporter. Juste de l'angoisse supplémentaire. Il faut vivre le moment présent essayer de les accompagner dans ce... Ouais. En ce moment présent, quoi.
Ouais. En tout cas, on entend que c'est vraiment très important. Annaëlle, dans un instant, vous allez justement nous raconter le lien que vous avez eu. Vous, c'était des chats, je crois. Hein. Je vous propose que peut-être avant d'écouter vos témoignages, on écoute tout de suite, bah, tiens, la chanson que vous avez choisie de Untrix.
Capable Demon Hunter.
Voilà, Capable Demon Hunter qu'on écoute. Pourquoi on écoute cette chanson?
C'est une chanson qui parle de résilience, en fait, dans le film, du fait de s'accepter soi-même. Et de s'accepter dans toutes ses facettes, aussi bien ses défauts que ses qualités, ses faiblesses et ses forces. Et du coup, c'est une chanson que je trouve très très belle.
Et ben on l'écoute tout de suite sur RCN.
Nothing but the truth now. Nothing but the proof of what I am. The worst of what I came from. Patterns I'm ashamed of. Things that even I don't understand. I try to fix it, I try to fight it. My head was twisted, my heart divided. My lies all collided. I don't know why I didn't trust you to be on my side. I broke into a million pieces and I can't go back. But now I'm seeing all the beauty in the broken glass. The scars are part of me, darkness and harmony. My voice without the lies, this is what it sounds like.
Why did I cover up the colors stuck inside my head?
I should have let the jagged edges meet the light instead.
Show me what's underneath. I'll find your harmony. The song we couldn't write. This is what it sounds like. We're shattering the silence. We're rising, defying, shouting in the choir. You're not alone. We listen to the demons. We let them get between us. But none of us are out here on our own.
Full Santé Mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais.
Aujourd'hui, on parle de médiation animale et beaucoup de un sujet très large hein, avec beaucoup de choses très intéressantes. Le bien-être animal qui est important aussi. Et puis, la place qu'a l'animal auprès de personnes, que ce soit, ça peut être d'ailleurs tout le monde. En fait, finalement, la médiation animale, ça ne concerne pas que les personnes qui souffrent d'une maladie, si je réfléchis bien.
Oui, ça concerne tout le monde. Ça concerne même des gens qui vont très très bien, qui sont en pleine forme. Et des fois, ils sont même en pleine forme grâce à leur animal.
Ouais, oui, absolument. Ouais. Alors, je vais quand même me tourner maintenant vers Annaëlle, notre témoin. Annaëlle, je le disais, vous, c'est des chats. Hein, que vous avez toujours eu, c'est ça?
Alors principalement, oui, des chats et des chevaux. Alors,
d'accord.
Pas que j'ai eu, mais que je côtoie régulièrement.
Je crois que dans votre histoire, vos chats, justement, ont eu une
place
un moment important.
Très, très, très importante, effectivement. J'ai eu plusieurs chats qui étaient absolument géniaux et très différents. Mais notamment un qui a vraiment été mon premier chat à moi, que j'ai adopté dans un refuge quand j'ai commencé à prendre mon indépendance, avec qui il y a vraiment eu une connexion spécifique qui s'est faite. Et c'était un chat d'assistance, vraiment. Enfin, pour le coup, il n'avait pas été formé, mais voilà, très rapidement, tout de suite, il comprenait quand j'avais des crises de dissociation et il savait comment se comporter, comment me réancrer dans la réalité. Il était là à chaque moment de ma vie et il réagissait comme plus que n'importe quel autre être humain qui pouvait partager ma vie ou croiser mon chemin dans ces périodes-là. Et effectivement, on a parlé du deuil d'un animal. Bah, effectivement, vu que c'était une de mes seules relations, de mes seuls liens vraiment positifs dans la réalité, lorsqu'il est décédé, ça a été un peu brusque. En plus, donc ça n'a pas aidé. Et du coup, j'ai fait ma première crise de décompensation réelle. C'est-à-dire qu'avant sa mort, j'allais pas forcément super bien. J'avais déjà des troubles, mais qui se maintenaient. Et où vraiment, la décompensation est arrivée à sa mort. Où là, il y a tout a craqué, tout a lâché, et où je me suis retrouvée hospitalisée.
Donc vous faites le lien avec le fait que votre trouble dont vous souffrez était assez stabilisé tant qu'il y avait cet animal.
En partie, oui.
Et puis, ça a craqué effectivement au moment où l'animal est parti.
Voilà, entre la souffrance, la perte de repères, la perte de sens aussi dans la vie, parce que s'occuper d'un animal, ça donne la motivation. Le matin, on se lève parce qu'il faut lui donner des croquettes. Le soir, on va se coucher parce qu'on veut les câlins. Et entre-temps, faut s'occuper de l'animal.
Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Du coup, alors vous êtes hospitalisé, mais vous avez continué avec les animaux derrière ?
Oui, tout à fait. Donc, j'ai trois chats à la maison maintenant. Ouais. J'ai repris l'équitation que j'avais arrêtée pendant près de 15 ans. Et pareil, l'équitation, le cheval est un animal qui est vraiment capable de nouer un lien et d'être un miroir émotionnel, un réceptacle qui va recevoir les émotions et qui va les apaiser. Et pour moi, c'est aussi un énorme médiateur social. C'est-à-dire que quand j'ai quelques difficultés dans les relations sociales, et quand je suis à l'équitation, quand je suis en train de m'occuper des chevaux, j'ai plus de difficultés en fait. La relation avec les gens se fait beaucoup plus facilement parce que l'animal est présent et que je vais parler de l'animal et que ça va ouvrir la discussion et je vais pouvoir m'ouvrir beaucoup plus derrière aux personnes.
Ça rejoint la notion que nous donnait Claire tout à l'heure du lien entre l'animal, la personne, le propriétaire, enfin le maître, je sais pas comment dire, et puis les autres du coup un petit peu.
C'est ça. C'est ça, ça se voit énormément quand on regarde les propriétaires de chiens. Qui, dans un quartier, tous les propriétaires de chiens se connaissent.
C'est vrai. Et puis parfois, le chien permet de connaître même des gens qui ne sont pas forcément propriétaires, mais qui s'arrêtent.
Voilà, parce que les personnes vont venir voir. Nous, vu que je suis dans un centre équestre public, pas de propriétaire, de club, voilà, et qu'on donne sur le parc de Brabois, on a souvent des familles qui viennent, qui passent la porte, qui vont caresser les chevaux, et puis qui nous voient en tenue et qui vont nous poser des questions. Et c'est vraiment un facilitateur de contact.
C'est assez génial, je trouve, ce que nous dit Anaëlle, Francis, Claire, dans le lien aux autres grâce à l'animal. Claire, c'était ce que vous nous disiez tout à l'heure, que ça joue vraiment un rôle important.
Ah oui, bien sûr, c'est un rôle. L'animal est un rôle important et l'animal ne juge pas.
Oui.
C'est ça aussi. Il y a aucun jugement de la part. Donc on est beaucoup plus naturel face à un animal que face à un autre être humain. On peut se dire, mais attends, qu'est-ce qu'il pense de moi ? Ce que je vais dire ? Comment il va l'interpréter ? L'animal qui est en face de nous, il ne va pas nous juger. On peut lui dire tout ce qu'on a sur le cœur. Et ce sera, c'est pour ça que pour les patients, c'est hyper important d'avoir ça.
Après, pour être une fanat de chat, le chat juge.
Le chat juge très très fort.
Oui, mais le chat, vous êtes chez lui, c'est différent.
Mais il nous aime malgré tout.
Voilà.
Il vous accepte dans son environnement.
Il nous tolère.
Il va nous juger. Et en fait, c'est assez marrant parce que moi, j'ai ça un peu avec mes chats. C'est des fois quand je fais... Quand j'ai des crises ou quand je vais pas bien ou quand je fais une connerie, je regarde le chat et je lui dis c'est bon, c'est pas la peine de te juger comme ça, de me juger comme ça et me regarde pas comme ça. Et en fait, le chat,
il s'en fout, il s'est juste passé quelque chose. Ouais. Mais
c'est peut-être juste ton interprétation de ce que pense l'animal.
Exactement, voilà. Exactement. Et du coup, ça fait un beau miroir pour s'auto-analyser.
Oui. Et puis ça permet peut-être de libérer les émotions à ce moment-là aussi, non ?
Oui, c'est ça. C'est parce qu'en plus, vu qu'on donne les émotions qu'on a à l'animal en face, bah, du coup, c'est plus les nôtres, en fait. Donc c'est pas moi qui me juge négativement, c'est l'animal qui me juge de manière drôle, parce que c'est un animal.
Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'est pas comme un être humain qui peut avoir des idées, peut-être des arrière-pensées, des choses comme ça. L'animal, ouais. il voit une situation, il réagit, puis basta, quoi. Merci Annaëlle pour votre témoignage. On a vraiment plus beaucoup de temps et j'aimerais quand même juste redire un mot sur le LAP et Adapte ton chien, parce que vous êtes présent aujourd'hui. Vous avez justement, parce qu'on parle de médiation animale, on avait toute une thématique et une question qui était posée aux gens dans la rue sur est-ce que l'animal peut être un frein à l'hospitalisation. Le LAP, justement, vous travaillez pour lever ce frein-là.
Oui.
On a vraiment 1:30
là-dessus. Oui, non, mais le lien n'est pas rompu puisque. L'association est là, soutenue par le CPN. Et quand il y a une hospitalisation, on nous appelle et on se charge de trouver un lieu ou une famille d'accueil. J'en profite pour faire un appel aux familles d'accueil bénévoles. Ou alors, on place l'animal dans une structure et c'est le moyen pour que le patient puisse retrouver son animal à la sortie. C'est-à-dire que c'est un moteur aussi pour se soigner, pour adhérer aux soins. Parce que le patient qui est hospitalisé, qui déjà au départ refusait l'hospitalisation, là, c'est qu'on donne des nouvelles tous les deux jours. Donc voilà, c'est déjà un lien avec le soignant parce qu'il ne considère plus l'hôpital comme le mauvais... l'endroit où on est contraint de rester, mais en sachant qu'il va retrouver son animal à la sortie, c'est autre chose. Donc nous, on travaille là-dessus. On est là pour trouver un lieu d'accueil pour les animaux des patients.
Donc, et puis on redire continuer à garder ce lien entre ce lien, l'animal et le patient, le patient et l'animal. Ouais. Donc c'est vraiment très important. Donc aujourd'hui, vous recherchez des familles d'accueil.
Oui. Et puis dire aussi qu'on a, pour toutes les personnes qui ne bénéficient pas du LAP, c'est-à-dire parce qu'il y a l'anonymat entre les familles d'accueil et les patients, le CPN a mis à notre disposition une salle de visite pour que les patients hospitalisés puissent recevoir la visite de leur famille avec leur animal de compagnie, pour garder le lien. Toujours.
Avec l'animal. C'est très important. Francis, pareil pour Adap, ton chien. Hein, donc, on le redit, vous, votre association, elle accompagne, elle forme et elle éduque, c'est ça.
Voilà. Nous, on peut former entièrement le chien pour le remettre à la personne en situation de handicap. Mais ce qui est intéressant aussi chez nous, c'est que la personne qui est handicapée peut, avec notre accompagnement, éduquer son chien elle-même. Quoi. C'est, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est, on n'apporte pas un paquet tout prêt au bout de quelques mois, quelques années de formation. On accompagne la personne. Je pense à Paul, monsieur autiste, qui aujourd'hui forme sa petite chienne. Ça fait 4 mois qu'il l'a. Victoria, il la forme. Et puis, il est en train de la préparer à vivre avec lui. Donc, il adapte vraiment la chienne à ce qu'il vit lui et puis à ce qu'elle vit elle. Il y a vraiment une symbiose entre les deux. On travaille aussi après pour des personnes qui, elles, souhaitent, ne peuvent pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas, hein, parce que quand vous êtes en fauteuil, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Et puis, c'est difficile, parce que gérer le matin le chien pour qu'il aille faire ses besoins dehors, gérer la gamelle, etc., c'est compliqué. Donc, nous, on prépare tout ça à l'avance. Et puis, effectivement, à un moment donné, on met, au bout de 6, 7, 8 mois, on met la personne en relation avec l'animal, et puis on continue le travail en accompagnant la personne, en disant, voilà, le chien, il est chez vous, et puis on va travailler avec vous, quoi. Mais on travaille aussi pour des structures. On a travaillé pour le CIDF de Lunéville. On travaille pour différentes unités d'accueil pédiatrique enfants en danger dans les hôpitaux. On travaille...
La police, la gendarmerie aussi.
Sur les UAPED, par exemple, on travaille...
UAPED, juste pour expliquer ce que c'est.
C'est les unités d'accueil pédiatrique enfants en danger. Ce sont des unités qui sont installées dans les hôpitaux en France. Il y en a à peu près une centaine à l'heure actuelle. Ils sont installés pour permettre la parole des enfants, des mineurs violentés, agressés, violentés, etc., que ce soit des violences familiales ou extra-familiales. Et l'objectif, c'est d'écouter, d'avoir un seul rendez-vous et d'avoir la parole en une seule fois. Parce que redire, c'est revivre.
Ouais,
donc, il faut éviter tout ça. Donc, généralement, s'il y a vraiment... s'il y a une audition qui a interpellé, c'est le magistrat qui fait la demande, hein, c'est le tribunal qui fait la demande. C'est le gendarme qui fait l'audition. Derrière ça, il y a une visite médicale pour voir s'il y a effectivement des traces. Mmh. Et puis, il y a aussi une analyse psychologique pour démystifier un peu tout ça. Et puis, pour remettre l'enfant un peu dans un cadre plus sympathique, quoi. Et donc, on fait intervenir le chien. Le chien accompagne l'enfant sur la corde de l'enfant, hein, de la victime. Le chien, il participe aux trois rendez-vous. Mmh. Et puis, il est là pour apaiser l'enfant. Ouais. Quoi. Et du coup, on a même des retours qui sont toujours un peu sympathiques, parce que vous avez des gendarmes qui nous disent « qu'est-ce que c'est bien d'avoir un chien avec nous ?» Parce que l'enfant... Quand le gendarme, ils ont des protocoles très, très établis, hein, ils sont régulièrement en formation, ils ont des protocoles très établis avec des questions ouvertes pour avoir des bonnes réponses, etc. Et quand ils posent des questions, avant, ils s'adressaient à l'enfant et l'enfant répondait au gendarme. Oui. Aujourd'hui, le gendarme pose la question, l'enfant répond au chien. Et le chien, il fait une espèce
de triangulation. Ce que disait Claire tout à l'heure aussi avec les médecins.
Ouais. Très sympathique et plus facile. Et même les gendarmes, ils ont la parole de l'enfant qui est moins violente.
Bah oui, bien sûr. Ouais.
Parce que des fois, vous entendez des trucs, c'est assez dramatique dans notre société. Ouais. Donc voilà, l'intérêt des chiens dans les UAPED, c'est ça, quoi. Et le Cédif de Lunéville utilise aussi le chien comme ça. Il y a le psychologue avec les femmes qui viennent se plaindre de violence et tout. Il utilise aussi le chien à ce moment-là, ou les éducatrices avec des enfants.
On voit que c'est hyper large et que l'animal peut vraiment jouer un rôle extrêmement important à plein de moments de la vie dans notre société. Malheureusement, l'émission déjà terminée. Ambre, un petit mot de conclusion, tu voulais rajouter quelque chose ?
Bah non, je crois que tout a été dit, on pourrait en parler des heures, des heures, je pense. Moi j'adore les animaux aussi, donc je pourrais en parler, pour avoir beaucoup d'animaux chez moi, mais voilà.
Et bah, preuve qu'il était urgent qu'on parle de cette thématique aujourd'hui dans Full Santé Mentale. Je vous remercie tous et toutes d'avoir participé. Merci Anaël pour votre témoignage, toujours très important, et revenez quand vous voulez, vous
merci le savez
que vous êtes la bienvenue, avec grande joie. Claire du LAP, Lien Animaux Passion, merci beaucoup d'être venue nous témoigner de vos expériences.
Ouais.
Merci également à Francis d'Adapte ton chien, pareil pour tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Je remercie également Jackie pour l'association Bipolaire si tu savais, Ambre pour le Crepsy, Joris à la technique. Belle journée à tous et à très bientôt pour un prochain rendez-vous.